bien ta parole en vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. C'est pas vrai? Encore une histoire de jugement, de condamnation et de catastrophe en tout genre? Il me semble qu'en ce moment, les textes du jour qui nous sont proposés sont toujours de la même trempe. Deux dimanches en arrière, souvenez-vous, c'était dans Luc la confirmation de l'existence de toutes les catastrophes qui se passent sur la terre et leur poursuite. Et aujourd'hui, ce texte de Matthieu dit que le retour de Jésus-Christ s'accompagnera de tumultes et de jugements. Pas très gai pour un premier dimanche de l'Avent. Comme si nous n'entendions pas assez de choses difficiles tous les jours, nos textes bibliques le dimanche en rajoutent encore. Oui, à l'approche de Noël, nous aimerions pour un temps oublier tout ce qui ne va pas et vivre l'annonce de la naissance de Jésus-Christ dans la paix et dans la joie. Pour tout vous avouer, je n'aime pas trop ces textes de jugement, de condamnation et de séparation que l'on trouve dans les évangiles. La question du jugement dernier ne m'intéresse pas vraiment. Je pense que Dieu m'appelle à vivre en Jésus-Christ dans le quotidien. Et quant à ce qui se passera après, pour moi, Dieu seul en est maître et je n'y pourrai alors rien. Je sais aussi que quoi que je puisse faire aujourd'hui de bien ou de mal, je ne gagnerai ou ne perdrai rien pour mon jugement dernier. Alors ces questions eschatologiques ne m'intéressent pas vraiment. Pourtant, ce matin, notre passage dit « Quand le Fils de l'homme viendra, il prendra un homme et laissera l'autre. Il prendra une femme et laissera l'autre. » Et il n'est pas le seul dans les évangiles. Nous devons lui faire droit aussi à tous ces textes difficiles. Car même en essayant de les retourner dans tous les sens, une lecture honnête et complète des évangiles fragilise malheureusement notre belle théologie de la grâce, qui nous fait parfois passer trop vite de « Dieu nous aime tous » à « Dieu nous sauve tous ». Écoutons deux choses importantes à propos de ce texte. Rien n'est dit de la raison qui fait choisir à Jésus l'un ou l'autre des hommes du champ, ou l'une ou l'autre des femmes qui travaillent le grain. Alors cela n'enlève rien, effectivement, au fait que Jésus en prend un et pas l'autre, en laisse une et pas l'autre. Mais cela montre que rien ne peut aujourd'hui nous permettre d'établir notre assurance, ce jugement dernier. Regardons maintenant le grec dans notre texte. Cette démarche peut parfois nous apporter bien plus que ce que nous pensons parfois. Et c'est le cas ce matin. Le mot grec traduit par « lécher » peut aussi bien se traduire par « pardonner les péchés ». Jésus en prend un et laisse l'autre, deviendrait Jésus en prend un et pardonne ses péchés à l'autre. Si on regarde maintenant le mot grec qui est traduit par « prend », on s'aperçoit qu'il est utilisé dans le même évangile de Matthieu au début, avec le diable comme sujet. Le diable prend Jésus pour l'emmener dans le désert. Cette action de prendre est ici présentée négativement. Le diable prend Jésus pour le tenter, pour l'enlever. Notre verset deviendrait alors « Jésus en prend un, et ce n'est pas forcément positif, et laisse l'autre, laisse ce qui est mal en lui, lui pardonne. » Cette étude un peu compliquée peut-être, mais j'espère vous l'avez bien compris, utile, montre que rien n'est joué d'avance. Rien n'est clair. Ce que l'on croit comprendre dans la Bible, on ne le comprend pas. Ce que l'on croit savoir depuis toujours, on ne le sait pas. Les évangiles ne sont pas noirs ou blancs. Ils ne sont pas si clairs que cela, sur certains points. Nous étions partis en espérant éclaircir ces versets difficiles et nous arrivons encore plus confus au terme de notre recherche. Je me souviens à l'une de mes premières prédications, j'avais dit à peu près la même chose qu'aujourd'hui. L'évangile de Jésus-Christ est parfois difficile à comprendre. Il se trouve qu'un pasteur retraité était ce jour-là dans l'assemblée. Terrible pour un débutant. Il est venu me voir à la fin du culte, le premier, et sincèrement attristé, m'a dit qu'un pasteur, je cite, « ne devait pas semer le doute parmi ses brebis, mais au contraire, donner des affirmations claires et nettes sur ce qu'est l'Évangile et sur ce qu'il n'est pas. » J'ai alors pensé que oui, effectivement, je débutais et que peut-être ce qui me paraissait trouble à l'époque allait bientôt s'éclairer. 10 ans après, j'en suis toujours au même point. Et si je peux me permettre, c'est encore pire qu'avant. Aucune certitude quant au jugement dernier. Aucune. Je suis allée récemment à la Biennale d'art contemporain à Lyon. Cet art moderne qui en fait grimacer plus d'un. Vous savez, un mur blanc avec un néon posé dessus. Quel intérêt. Une chaise avec un pied caché. J'ai la même à la maison. Nous avons l'habitude du classique, qui représente quelque chose clairement et donne à comprendre. Eh bien, je crois que là est la différence. Nous cherchons toujours avec l'art contemporain à le comprendre comme nous comprenions l'art classique. Mais l'art contemporain donne plutôt à vivre des émotions. Il fait ressentir, dans le positif ou le négatif, et laisse rarement indifférent. Mais il n'est en tous les cas pas fait pour être compris. Au retour de l'exposition, j'essayais d'expliquer cela à quelqu'un qui a du mal à apprécier cet art, car cette personne voudrait le comprendre. Et cette comparaison m'est venue. L'art moderne, c'est comme l'Évangile. Il ne se comprend pas, mais il se vit. L'Évangile n'est pas fait pour être compris, mais pour être vécu. L'Évangile ne se vit pas dans la tête, mais dans le cœur. Vous allez me dire, mais pourtant Jésus use de pédagogie tout au long des évangiles pour essayer de nous faire comprendre son message. C'est vrai, il utilise toutes sortes de procédés, des paraboles, des discours rhétoriques, des répétitions. Et dans notre passage, et dans les passages qui l'entourent, de multiples comparaisons nous sont données pour expliquer la venue du Fils de l'homme, chacune se terminant bien méthodiquement par « Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera la même chose. Il viendra, mais vous ne savez pas quand. » Nous devons saisir et recevoir, et même nous imprégner de beaucoup de choses venant de Jésus-Christ. Nous devons même étudier la Bible avec notre tête. Et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire quand je vous parle du grec. Pourtant, nous ne connaîtrons jamais la substance de l'Évangile. Nous ne comprendrons jamais Dieu. Ni Jésus-Christ. Comprendre dans le sens de prendre avec soi. Car Dieu est insaisissable. Il ne nous appartient pas. Nous ne connaîtrons jamais Dieu jusqu'au jour où, réunis à ses côtés, nous le verrons face à face. Et là, mais seulement là, nos yeux s'ouvriront et nous comprendrons enfin. Pour le moment, nous vivons. Nous vivons l'Évangile en acceptant de ne pas le comprendre. L'Évangile se vit, mais ne se comprend pas. Alors vous allez me dire, où est le lien ici avec l'Avent, avec Noël, que quand même maintenant nous commençons à attendre, que nous préparons, déjà prêts en ville avec toutes les illuminations. Nous nous activons dans nos familles à la recherche de cadeaux, de décoration. Nous nous activons à l'église avec nos stands de fourmis, de livres et de couronnes. Nous nous activons avec les enfants pour préparer la fête de Noël, avec les plus grands pour les cultes. Eh bien, le lien, c'est tout simplement que l'Évangile se vit, dans l'attente. Dans l'attente de quoi? D'un temps où les catastrophes ne seront plus, où les rires seront plus forts que les pleurs, et où la vie aura le dernier mot sur la mort. Nous attendons un royaume où la paix règnera enfin pour tous et pour toujours. Et cette attente, nous la vivons plus particulièrement dans ce temps de l'Avent qui précède Noël, où nous attendons la venue du Sauveur, qui d'abord vient sur terre pour nous réconcilier avec le Père et pardonner les péchés, et qui dans un autre temps reviendra, pour cette fois nous délivrer pleinement et nous donner la paix ultime. C'est ainsi que nous vivons notre temps de chrétiens, dans l'espérance. L'espérance d'un temps accompli qui nous est promis. Cette espérance est dite dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure. Un jour dans l'avenir, avec leurs épées, ils fabriqueront des socles de charrues. Avec leurs lances, ils feront des faucilles. Un pays n'attaquera plus un autre. Les hommes ne s'entraîneront plus pour la guerre. En route, marchons dans la lumière du Seigneur. Le thème retenu cette année aux amitiés judéo-chrétiennes est le messianisme. Et nous avons dit ensemble que finalement, cette démarche ne consiste pas tant à attendre qu'à vivre chaque moment dans l'espérance. Quand on voit autour de nous et dans nos familles l'inquiétude croissante qu'il peut y avoir quant à l'avenir, mouvements sociaux divers, grogne des étudiants quant à leurs études, inquiétude d'autres jeunes face à une attaque biochimique ou un piratage Internet. Tout cela signifie bien que nous vivons des temps angoissés. Il nous manque la confiance, la difficile confiance. Quand j'entends presque à chaque visite chez des personnes âgées et fatiguées qu'elles veulent en finir et qu'elles ne comprennent pas pourquoi Dieu ne vient pas les chercher, je réalise combien l'attente dans la confiance est difficile, voire cruelle parfois. Alors parfois, c'est vrai, je me révolte avec ces personnes qui n'en peuvent plus et j'abonde dans leur sens. Mais pourtant, l'esprit me souffle à l'oreille de prêcher l'apaisement et non la violence, la confiance et non la révolte. Comme c'est difficile parfois. Alors je me tais et je prie. Seigneur, nous ne comprenons pas tes voix, qui nous paraissent tellement cruelles parfois. Alors nous crions à toi et tu nous entends. Apaise-nous, apaise-nous. Remplis nos cœurs de ce temps d'attente de l'avant. Attente dans la confiance et dans l'espérance.